Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier carnet de région de la saison. Un rendez-vous d'informations régionales hebdomadaires coproduit par les radios associatives du Languedoc-Roussillon. Cette semaine, c'est RCF Hérault qui en assure la présentation. Au programme, nous reviendrons sur le 18e coup de cœur des femmes journalistes. Le prix des meilleurs vins des coopératives de la région ont été décernés. Un sujet de Radio Pays d'Hérault. Un aigue-morté nommé au Festival international du film de Shanghai, il s'agit du scénariste Gérard Dardé. C'est Naëma Serve de Delta FM qui est allée à sa rencontre. Nous parlerons également du 4e festival Aude Aventure Handisport, l'événement qui se déroule les 27 et 28 juin à Limoux. C'est un reportage de RCF Pays d'Aude. Et puis enfin, nous partirons du côté de Montpellier. La ville accueille depuis début juin la première maison du don d'organes en France.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
On commence ce carnet de région au Salagou. Des opérations de faux-cardage sont menées cette semaine des deux côtés du lac, sur Clermont-l'Hérault et l'Audève. L'objectif, couper des herbiers un peu trop envahissants sur l'eau à la veille de ces deux mois d'été. Pour cela, les intercommunalités ont fait appel à une société spécialisée pour nettoyer certains secteurs. À défaut de pouvoir éradiquer ce lagarosiphon, originaire d'Afrique du Sud, comme nous l'explique Michel Combe, en charge des activités de pleine nature à la communauté de communes Lodévois et Larzac. Il est au micro d'Alain Mendès de Radio Lodève.
Voilà, ben c'est un herbier envahissant, un herbier aquatique envahissant, dont le conseil général et les deux communautés de communes, puisque Clermont fait ça de son côté, font des opérations un petit peu de confort et permettant un petit peu d'assurer le tourisme, parce que c'est quand même une plaie assez importante au niveau de la baignade, au niveau de la planche à voile, pareil. Cet herbier qui descend jusqu'à 6 mètres de profondeur, donc on a ça sur une vingtaine de mètres en largeur. Je ne parle pas des bateaux de pêche, c'est pire, parce que les petites hélices électriques ne sont pas assez puissantes des fois, et donc les pêcheurs rouspètent. Donc voilà, il y a une opération dans le faux-cardage au moissonnage qui est faite par une société, et qui avec ses bateaux ramasse, fait d'abord fauche, puisqu'elle a une lame qui descend à 2,50 mètres de profondeur, elle le coupe, et puis elle le fauche avec sa fourche avant, pour essayer de faire l'état et pour emporter tout ça, l'élever. On ne l'éradique pas, c'est pas possible. À l'heure actuelle, il n'y a aucune solution. Donc on essaie simplement d'assurer un certain confort pour les touristes et les personnes du coin qui viennent passer un moment sur les berges. Surtout qu'à cet endroit-là, nous avons à partir du 6 juillet, on a une baignade surveillée qui se met en place. Donc il fallait quand même aussi pouvoir mettre une ligne de flottaison et assurer que les gens qui sont dedans puissent se baigner sans trop d'affolement. Quoi. Voilà.
Voilà, cette algue, elle a été repérée il y a quelques temps par Philippe Martin, voilà, qu'on connaît bien sur le territoire. Hein, et...
Tout à fait, ouais. Dans les années 2009, je crois qu'il avait vu cet herbier et il avait signalé, bon, il a fallu un certain temps, et là maintenant, bon, les gens se sont un peu plus affolés et il y a des opérations donc, qui sont faites. Je crois qu'il y a une opération prochainement qui va être faite par des bénévoles, enfin manuellement, sur celle, pour essayer aussi de nettoyer un petit peu des berges pour que les gens puissent aller se baigner. Car aujourd'hui, c'est bien le problème, c'est l'accessibilité à l'eau, tout simplement.
Voilà, l'opération de faux-cardage, pour terminer, c'est sur la semaine ou c'est déjà bouclé?
Ça a duré deux jours, ouais. Et on a une petite reprise lundi. Ils reviennent lundi pour finir tout le bord de la berge du côté de la base de loisirs qui n'a pas pu être terminée. On travaille sur, nous, 7 mm², ça suffit largement parce qu'après, de toute façon, il n'y a pas au large, ça ne sert à rien. Et on ne peut pas faire tout électrique autour.
Voilà, un mot sur ce lac qui est sécheresse oblige, c'est partout pareil dans le département, particulièrement bas en ce moment.
Oui, ouais. il est bas puisqu'a priori, d'après les courbes qu'on nous a fait parvenir, le gestionnaire doit être à peu près à la hauteur du mois d'octobre 2012, c'est-à-dire après la saison d'été 2012. Alors, deux mois de sécheresse, ça fait deux mois de chaleur, je ne sais pas combien, où c'est qu'il va être dans deux mois. Quoi. Mais c'est vrai qu'il est très bas cette année, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça.
Voilà, et ça impacte forcément l'activité saisonnière touristique comme cet herbier et ces herbiers que l'on évoquait.
Oui, tout à fait, il y a ça, et puis après il y a aussi des petites anomalies, petites remarques, c'est qu'on a un poste de secours, par exemple, qui avant était à 15-20 mètres de l'eau, aujourd'hui on est à 50 mètres de l'eau. Il va falloir qu'ils soient très sportifs, les secouristes, pour pouvoir rapidement aller chercher les personnes potentiellement victimes.
Et puis on va en sortir des petites îles. Hein,
voilà, on va ressortir un petit peu partout, on commence à voir des morceaux de terre qu'on ne rappelait pas, et il faut faire attention aussi pour la navigation.
Retour à présent sur le 18e coup de cœur des femmes journalistes. 33 femmes journalistes de la presse régionale, nationale et internationale se sont réunies au caveau de Montpérou dans l'Hérault. Elles ont décerné le prix du meilleur blanc, rosé et rouge issu des 220 caves coopératives viticoles du Languedoc-Roussillon. Un concours sous l'égide de COP de France Languedoc-Roussillon, fédération des coopératives agricoles de la région. Sa vice-présidente revient sur l'intérêt de ce coup de cœur au micro RPH. Adrien Delgrange.
Alors un intérêt énorme, hein, puisque vous l'avez dit, ça fait 18 ans qu'il existe, donc il a maintenant une vraie reconnaissance auprès des vignerons et des consommateurs, de nos clients qui attendent chaque année le coup de cœur. C'est un prix qui est reconnu et apprécié. Voilà, il y a bien sûr le concours général agricole à Paris, etc., les prix à Mâcon. Viennent des concours, mais le coup de cœur a une résonance particulière, peut-être parce que c'est des femmes aussi qui le portent. Puis la mise en avant aussi de la coopération, puisque les vins qui sont élus au coup de cœur sont issus du concours qui a eu lieu au mois de mars de la coopération de la région. C'est les Madeleine d'Or qui concourent aujourd'hui. Donc voilà, c'est une mise en avant par les journalistes de France, puisque ça dépasse la région, et puis on a aussi des journalistes étrangères qui participent, et chaque année, un plus grand nombre de journalistes qui viennent. Donc c'est une vraie reconnaissance à la fois de nos vins et de la coopération.
Un concours lancé il y a maintenant 18 ans et qui séduit donc la presse internationale, notamment représentée par cette journaliste chinoise du Global Times, un journal tiré à 2 millions d'exemplaires. Shi Jiofan nous dit en quoi la population chinoise est intéressée aujourd'hui par le vin français.
Je pense que les Chinois, beaucoup de Chinois aiment la France. Ils considèrent la France le pays le premier de tourisme, de romance, de gastronomie et du vin. De plus en plus, les Chinois commencent à boire de vin français, surtout les classes aisées chinoises.
Pour la cuvée 2014, les femmes journalistes ont aimé en blanc un muscat sec de la cave coopérative de Rivesaltes, en rosé un IGP Côte de Thau de la cave de Richemère de Marseillan et en rouge un AOC Costière de Nîmes du château Fornier de Clauzonne. Annick Borté, nommé au Festival international du film de Shanghai, Gérard Dardet est scénariste depuis plusieurs années. Il a écrit de nombreux courts-métrages et documentaires sur le territoire. En 2013, il se lance dans une aventure, réaliser un documentaire sur la Camargue baptisé « Sel, vin et taureau ». Un documentaire qui séduit les sudistes et attire la curiosité des Chinois. Gérard Dardet est rapidement sélectionné dans la catégorie documentaire pour le Festival international du film de Shanghai qui se déroule cette semaine. Une vraie reconnaissance pour ce passionné qui a commencé très tôt le cinéma.
C'est une histoire qui remonte plusieurs années en arrière, et parce que je suis passionné de cinéma. Par contre, je n'aime pas être devant la caméra, mais j'aime bien être derrière. Et n'ayant pas fait d'études de réalisateur et de tout ce qui est technique, je me suis penché sur la partie que je maîtrise le mieux, qui est l'écriture. Et d'ailleurs, le premier scénario que j'ai eu dans les mains pour me servir de modèle était un scénario de Monsieur Duperron qui s'appelle La Machine.
Vous avez fait aussi d'autres courts-métrages et longs-métrages, La Croix du Sud, Technopolis aussi. Vous avez quand même beaucoup de documentaires ou de films à votre actif.
Tout à fait. Alors au fil des années, la difficulté pour un scénariste est de faire réaliser ce qu'il a écrit ou imaginé. Devant ce petit handicap ou devant ce petit barrage, on décide donc de passer derrière la caméra en tant que réalisateur. Ce qui fait que j'ai commencé à réaliser un premier court-métrage à Aigues-Mortes qui s'appelait « Entrée du train en gare 2 ». en hommage au premier film des frères Lumière à La Ciotat. Et ce court-métrage qui avait été réalisé dans la gare d'Aigues-Mortes avait la particularité que tous les comédiens étaient des Aigues-Mortais.
Vous avez réalisé ce documentaire si prestigieux, on va dire, puisqu'il a été retenu pour le Festival international du film de Shanghai. Ce sera donc du 18 au 24 juin. Vous avez réalisé en 2013 le documentaire « Sel, vin et taureau ». Pourquoi avoir réalisé tout d'abord ce documentaire ?
J'ai réalisé « Sel, vin et taureau » parce que déjà je me suis dit quelles sont les trois mamelles de la région. Ben, en quelque sorte, c'est le sel, le vin et les taureaux. Donc en cherchant d'une façon un petit peu historique, je me suis aperçu que la récolte du sel, la culture de la vigne et l'élevage des taureaux dans les prés étaient intimement liés. Et je me suis aperçu que c'était à la fin de la récolte du sel, à la fin des vendanges, que ces grandes fêtes étaient organisées à Aigues-Mortes, et que d'ailleurs que cette fameuse fête d'Aigues-Mortes ne correspondait pas du tout à une fête religieuse comme on pouvait retrouver au Moyen-Âge. Donc il était évident que cette grande fête d'Aigues-Mortes, c'est la façon dont je l'ai analysée, était à mon sens une sorte de soupape sociale qui permettait aux gens qui avaient travaillé d'une façon terriblement pénible avant la mécanisation de tout le système du travail actuel, je suppose qu'ils avaient besoin, pour évacuer toute cette difficulté du travail, une très grande fête qui était organisée, où toutes les barrières sociales devaient tomber, où toutes les... Enfin, c'était la fête, quoi.
Comment vous avez réalisé ce documentaire ? Il a fallu des témoignages, aussi des récits historiques ?
Ce documentaire a été réalisé déjà sur une année complète, puisque on travaille avec les saisons, en fait. On est bien obligé de montrer les saisons par rapport aux travaux agricoles. En ce qui concerne les recherches pour écrire le scénario d'un documentaire, parce que un documentaire est fatalement scénarisé, c'est-à-dire vous partez d'un point et vous voulez emmener le spectateur à un autre point, ou lui faire découvrir quelque chose. Donc il y a déjà un travail d'écriture en amont. Et dans ce travail d'écriture en amont, j'ai donc contacté des historiens, bien entendu, le plus célèbre Aigues-Mortais qui est M. André Urbe. J'ai contacté, bien entendu, M. Aubanel en ce qui concerne toute l'histoire des taureaux camarguais. J'ai contacté le directeur de l'Institut de la vigne et du vin au Gros du Roi de façon à avoir toutes les explications concernant la culture et l'antériorité de la vigne.
Comment vous avez été retenu pour ce festival international du film à Shanghai ?
Et il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Victor Comté, qui est en relation par rapport à la Chine, parce que le marché chinois est très difficile à pénétrer et même à découvrir. Ils ont une façon de penser et de réfléchir qui est totalement différente de la nôtre. Donc Monsieur Comté, qui avait quelques liens avec la Chine, a réussi à vu le documentaire. Et il s'est dit, tiens, c'est peut-être un projet qui pourrait intéresser la République de Chine et un festival de cinéma à Shanghai, on va essayer de le présenter. Et puis, au fil des mois, il a été retenu parmi les 360 films qui sont présentés. Bien entendu, Sel, vin et taureau est dans la catégorie documentaire, n'est pas dans la catégorie des longs-métrages. Et puis, il se retrouve en finale au niveau des documentaires. Et je pense qu'il bénéficie d'une sympathie qu'ont les Chinois actuellement vis-à-vis de la France et vis-à-vis du sud de la France, justement.
Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris que vous étiez sélectionné ?
Lorsque j'ai appris la sélection du film au Festival de Shanghai, j'ai été terriblement surpris parce que je ne pensais pas que mon travail qui avait été fait d'une façon confidentielle sur Aigues-Mortes pouvait aller aussi loin et intéresser des gens à l'autre bout de la terre. J'étais très surpris, et puis bien sûr, on est toujours content, bien entendu. Même s'il n'y aura pas de prix à l'arrivée, comme avait dit M. Pierre de Coubertin, l'intérêt c'est de participer.
Gérard Dardet est déjà sur un autre projet. Il se lance dans la réalisation d'un long métrage sur Jean Bouin, un athlète français qui a marqué les années 1900. La sortie de ce film est prévue pour 2018. C'était un entretien de Naïma Serve pour Delta FM.
Carnet de région. L'actualité en langue de Croussillon.
C'est Ces 27 et 28 juin, dans l'Aude, se tient la 4e édition du festival Aude Aventure Handisport, un moment de fête et de convivialité ouvert à tous. Le festival contribue chaque année à rendre accessible toujours plus de lieux dans le département. L'événement se déroule cette année à Limoux, mais tout a commencé en 2011 à Narbonne. Pierre Antolin est chargé de mission au comité Handisport de l'Aude. Il répond aux questions d'Éric Boyer de RCF.
En 2011 à la Nautique, c'était le premier festival. Alors le festival, il fait partie d'un des axes de développement du gros projet Aude Aventure Handisport. Donc ce projet qui a été monté en 2010 et présenté de suite au Conseil Général et adopté donc par le Conseil Général et par le projet Audevent, où il y a 7 axes de développement. Donc l'étude sur l'accessibilité des sites de plein air dans l'Aude, les journées découvertes aventure, le programme Handiscol Aventure, le travail avec les jeunes, Handibus Aventure, les séjours jeunes aussi et les séjours pour adultes, le festival Aude Aventure Handisport, le matériel Handisport Nature et les formations Handisport. Voilà pour les 7 axes de développement.
Donc ça, ce sont des axes, ce sont des missions qui sont dévolues au comité Handisport et que vous développez chaque année, hein, c'est ça ?
Oui, voilà, donc qui fait partie de ce projet de développement des sports nature. Après, on a d'autres projets et d'autres travaux. Mais en tout cas, concernant le développement des sports nature, on a ces 7 axes de développement. Alors, ce qui est très important, c'est au niveau de l'accessibilité, on travaille avec le comité départemental de tourisme, et notamment Dorian Manteo, qui est sur le tourisme et handicap. Et on va 2-3 fois par an sur des sites pour regarder l'accessibilité en vue d'un label tourisme et handicap.
Alors, ce que je n'ai pas dit, mais que je m'empresse de dire, c'est que cette 4e édition du festival Aude Aventure Handisport se tiendra les 27 et 28 juin prochains. Ça sera à Limoux. Donc, chaque fois, vous changez d'endroit. Ça tourne. Je disais que ça a eu lieu à Narbonne, Casséon-d'Arry, Carcassonne et cette année, Limoux.
Oui, voilà. Donc, le but, c'est de valoriser une collectivité et l'accessibilité d'un site ou l'accessibilité d'une collectivité. Et promouvoir le handisport. Donc en 2011, la Nautique, pour valoriser le site du club de la Nautique qui a été rendu accessible, avec des pontons et des bateaux accessibles, et aussi des sanitaires et vestiaires. Voilà, en 2012, là c'était pour valoriser la ville de Castelnau-d'Arry et la piscine de Castelnau-d'Arry où on a fait de la plongée notamment. 2013, Carcassonne sur le site du Paille-Chéroux et la piscine qui était aussi accessible, on a fait également de la plongée. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'activités. Et là, en 2014, on va se retrouver avec 14 activités, avec du kayak, de la plongée, de l'escalade, du tennis fauteuil, de l'handbike tandem, escrime fauteuil, rugby fauteuil, tir sportif, tir à l'arc, golf, jouelette, cécy foot, quad VTT, sarbacane. Voilà, et là, sur le site de Limoux, c'est la piscine qui a été rendue accessible, mais également le kayak, le club de kayak, avec une rampe d'accès pour le ponton. Voilà, donc c'est un plus et on va faire cette manifestation pour valoriser ces équipements.
Alors, qui dit handisport dit personne handicapée. Pour autant, ce festival d'aventure handisport, vous le dites souvent Pierre, est ouvert à tout le monde, aux valides aussi. Il faut que tout le monde se rende compte que le handisport est possible.
Oui, bien sûr. Alors, le handisport, c'est pas que des personnes handicapées, c'est toute une famille. C'est des valides, des enfants, des adultes, des personnes âgées. Là encore, hier, il y a une dame qui m'a appelé au bureau pour me demander, oui, voilà, on est une structure de personnes âgées. Est-ce qu'on peut venir au festival? Ça intéresse du monde pour faire notamment de la sarbacane. Quelques-uns pourront faire du kayak. J'ai dit, mais bien sûr. En plus, il y a des enfants qui vont venir le vendredi, toutes les écoles de Limoux. Ça va être un vrai partage entre les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les adultes, etc. Donc c'est tout public.
Il y a une démarche de découverte, parce que ces sports-là aussi, les valides, les enfants, vous l'avez dit, peuvent les découvrir. Il y a de la convivialité, on sent que c'est très ouvert ce festival.
Oui, voilà, donc c'est une découverte pour tous, initiation pour tous, et c'est pas une compétition, il y a même une randonnée le samedi matin, mais c'est pas une course, et en même temps, il y a un côté festif. Alors, les autres années, on prenait des bandas ou des fanfares pour la journée, mais là, on a fait un gros concert le soir. Bon, il y avait des concerts aussi le soir, mais cette année, il sera encore plus costaud, avec des groupes qui viennent de Lille, d'Albi, etc., et donc voilà, il y a ce caractère festif qu'on continue chaque année parce qu'il y a vraiment de très bons retours et les personnes nous le rendent bien, quoi. Nous montrent qu'on a l'impression en tout cas de faire bien les choses par rapport à ce sens de partage et de convivialité.
Nous partons dans l'Hérault pour terminer ce carnet de région. Montpellier accueille depuis début juin une maison du don d'organes. C'est la première fois en France qu'un tel établissement est inauguré. La structure se situe rue Maglone à Montpellier, au-dessus de la maison de la prévention santé. La maison du don d'organes a pour principal objectif de prendre en charge les familles. Gérard Garcia est le vice-président de l'Association française des familles de donneurs d'organes, l'association à l'origine de ce projet.
Le principe, déjà, c'est notre association est complètement voué aux familles des donneurs d'organes. Nous considérons qu'il est normal de glorifier cet acte de grande générosité, d'accepter qu'un fils, un cousin, un parent soit donneur. Ce n'est pas une décision facile à accepter. Nous, on est là pour faire la promotion de cette idée, parce que c'est une riche idée, c'est une véritable solution médicale qui sauve des gens chaque année. Mais l'appui est vraiment très spécifique, puisqu'il repose sur un appui psychologique avec des psychologues, appui juridique avec des juristes et appui social avec des personnes spécialement formées pour ça et qui peuvent aider les familles.
Voilà, justement, j'allais vous poser cette question. Comment est structurée ces maisons ? Comment est-ce qu'elles sont composées ?
Alors, cette maison est composée d'une salle pour recevoir les familles. À côté, nous avons le bureau des associations et une salle de réunion. Pour l'instant, c'est trois pièces.
Comment vous est venue cette idée de cette maison du don d'organes pour les greffes ?
Je pense qu'une idée forte comme ça, si elle n'est pas matérialisée, vous savez, on est un peu cartésien, si elle n'est pas matérialisée, si on ne peut pas rencontrer les gens sur un site déterminé, si ce n'est pas un site repérable dans une ville, eh ben, ça reste une idée théorique. Donc on a voulu fixer de façon définitive, j'ai envie de dire, l'endroit où les gens peuvent se rencontrer, nous rencontrer et demander soit de l'aide, soit un appui.
Est-ce que l'enjeu, ce n'est pas aussi de sensibiliser les familles ou même les personnes lambda à se prononcer sur le don d'organes ?
Oui, bien sûr, mais il y a beaucoup d'associations en France qui déjà militent pour le don d'organes. Nous, on a pris un angle particulier, c'est l'appui aux familles. Je dis souvent que si on dit que quelqu'un qui adopte un enfant fait une bonne action, eh ben, le féliciter, le glorifier, l'honorer, c'est sensibiliser les autres à ce type d'action.
Pourquoi ce choix de Montpellier, de la ville de Montpellier, pour cette première implantation ?
Alors, il faut donner à César ce qui appartient à César. C'est une idée de Madame Androux, qui est médecin, et qui a été sensibilisée par ce type d'action qu'elle a vu dans un déploiement d'une efficacité totale au Canada. Elle s'en est fortement inspirée.
Vous pensez qu'il y a souvent cette idée de réticence de la famille à la volonté de la personne ?
Ce n'est pas une réticence, c'est, si vous permettez, vous mettez entre guillemets, c'est une question d'évolution de la société. Quand il y a 40 ans, on parlait de crémation, personne en Europe ne voulait entendre parler. Aujourd'hui, 70% des gens se prononcent pour. Donc c'est une question d'évolution. Je pense que le don d'organes, ça va rentrer dans les mœurs comme une solution médicale qu'on ne peut pas contredire, quoi. Et je dis bien que c'est une question de société, parce qu'en Espagne, ça marche mieux que chez nous. En Belgique aussi. Et en Espagne, chaque semaine, on fait un point sur le nombre de greffons disponibles. Ça veut dire que c'est devenu un élément lisible d'une société. Et il faut que ça devienne la même chose chez nous. Puisque tout le monde, la loi le dit, tout le monde est donneur a priori.
Une question peut-être plus générale, aujourd'hui, il manque des dons d'organes ou pas en France ?
Ah oui, oui, absolument. Il y a 15 000 personnes sans liste d'attente. Il se fait 5 000 greffes maximum en France chaque année. Ça veut dire qu'il y a 500 personnes qui décèdent par défaut de greffons.
Et c'est peut-être grâce à ces maisons que l'on peut améliorer ces chiffres ?
Oui, c'est-à-dire qu'on concourt à améliorer la perception de l'ensemble de cette opération qui va de la sensibilisation au don jusqu'au don. Et puis l'après-don, où il faut aider les familles.
D'autres maisons de ce type pourraient voir le jour en France ?
Eh bien, c'est notre objectif. Vous savez, notre titre, c'est Association française. Ça veut dire, ça dit tout de suite, notre ambition de rayonner sur la France. Donc, nous souhaitons faire des délégations par région. C'est bien, les régions vont être resserrées et ça fera moins de régions à convaincre. Mais il faudra qu'un jour, il y ait 14 maisons de don d'organes en France.
C'est l'objectif ?
Une par région. Ah oui, c'est l'objectif. Et dès cette année, on a deux hypothèses de délégation, une en Alsace et une dans les PO.
C'est déjà la fin de ce carnet de région, le dernier de la saison. Votre rendez-vous avec l'information ici en Languedoc-Roussillon. Un grand merci à toutes les radios qui ont participé à son élaboration et à sa diffusion. Merci de nous avoir suivis. Retour du carnet de région à la rentrée. Bonnes vacances à tous. Au revoir.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gare.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gare.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.